Bonjour, c'est Jean-Luc Gadreau, vous écoutez France Culture et comme chaque dimanche matin à 8h30, Solae, le rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France. Une émission aux contours musicaux ce matin puisque je reçois le producteur Albert Cohen et la chanteuse Sarah Cooper. Sarah, vous êtes auteure, compositrice, interprète avec un rapport privilégié, je crois, au style gospel, participation à des chorales comme We Are One, Gospel Voices ou encore Gospel pour Sans Voix. On a pu vous entendre comme choriste, notamment sur les plateaux télé, avec de nombreux artistes de renom. Je notais Céline Dion, Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, Christophe Maé. Un groupe, That Soul, c'est ça?
Oui, ça fait longtemps ça.
Avec qui vous interprétiez donc vos propres compositions
tout
à l'époque. En 2016, vous avez participé à l'émission The Voice.
Oui.
Et vous aviez choisi d'intégrer l'équipe de Florent Pagny.
Oui.
Et puis, encore plus récemment, vous incarniez Naama dans la comédie musicale Noé, la force de vivre.
Oui.
J'avais eu la joie de vous recevoir dans l'émission avec Esaï Altounian. Et donc aujourd'hui, vous revenez encore dans une comédie musicale, un vrai spectacle musical, dans le personnage, cette fois-ci, de Jochébed, la mère de Moïse, dans les 10 commandements, l'envie d'aimer. Bonjour Sarah.
Bonjour Jean-Luc, merci de me recevoir.
Albert Cohen, bonjour et bienvenue. Vous êtes producteur de documentaires, de films pour le cinéma, la télévision et d'un certain nombre de comédies musicales. Pour rester sur ce sujet, alors il y a eu du lourd, si j'ose dire, avec Le Roi Soleil, avec Mozart, l'opéra rock. Mais tout a commencé dans ce genre musical pour vous avec Les 10 commandements. La première version que vous avez produite avec Dov Atia fin 1998 et vous renouez avec ce premier succès cette année en produisant de nouveau ce spectacle, Les 10 commandements, l'envie d'aimer, toujours dirigé par Pascal Obispo. Bonjour, bienvenue.
Bonjour, merci pour votre invitation.
La présentation, ça dit les choses essentielles,
ça dit
on va
l'essentiel.
Dire. Et puis
oui.
Le cœur de l'actualité, là, c'est donc ce nouveau spectacle. J'ajouterais quand même, puisque l'on est à la radio sur France Culture, que vous êtes aussi à l'origine cofondateur de Radio Nostalgie.
Ben oui.
C'est ça?
Oui, j'ai eu ma période radio fantastique, ouais. Passionnante, à l'époque où on appelait ces radios les radios libres.
Et oui.
Elles étaient libres.
Ça tombe bien de parler de liberté, parce que la question de la liberté, c'est aussi au cœur de ce spectacle, les 10 commandements, l'envie d'aimer.
C'est exactement le thème, la liberté. On rejoint le thème des radios libres. J'ai l'impression que ce statut de producteur libre et indépendant me poursuit. Il est compliqué, il n'est pas tous les jours facile, mais il est passionnant et il permet de faire en tout cas ce qu'on a envie de faire.
Alors, ce spectacle est déjà en tournée. Il a commencé donc à prendre forme sur scène depuis le 9 mars. Je crois qu'hier, c'était Montpellier. Et puis, il y aura Nice, Clermont-Ferrand, Lyon, Amiens, Dijon, Paris avec la scène musicale du 5 juin au 27 juin. Et puis ça continuera encore à sillonner les villes françaises en passant aussi d'ailleurs par Bruxelles et avec des dates programmées jusqu'à déjà janvier 2025 je crois. Et puis après on verra.
Et après on verra. Tokyo, Shanghai.
Et nous allons parler de ce spectacle avec Albert Cohen et Sarah Cooper. Mais avant je vous propose d'écouter quelques réactions qui sont glanées dans les rues de Paris en posant simplement cette question. Ça vous évoque quoi, les 10 commandements?
Oui, bah ça m'a fait penser à Daniel Lévy qui est disparu il y a quelques années et qui est emblématique de cette comédie musicale quand elle est sortie.
Non, bah j'ai vu des affiches dans la rue et c'est tout, quoi.
Oui, tout à fait, il y a quelques années déjà. La fameuse chanson avec mon frère. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu l'opportunité de la voir. Je l'ai surtout entendue à la radio, mais je n'ai pas pu la voir.
Oui,
vous connaissez ?
Je connais, je ne l'ai pas vu, mais je connais les chansons.
Est-ce que je suis sûre de ne pas me planter ? L'important c'est d'aimer peut-être, c'est ça ou pas ?
Oups ! L'envie d'aimer.
L'envie d'aimer. Non, je ne vais pas vous la chanter, en revanche.
C'était les débuts des comédies musicales et c'était l'une des plus réussies à l'époque.
Mais non, j'ai vu le film Les 10 commandements, moi.
Je m'en rappelle, ouais.
Il y a
une musique là, ce sera nous, là, cette musique là. Comment il s'appelle le chanteur de Moïse, mais c'était Moïse l'interprète, le
Daniel Lévy.
Daniel Lévy, voilà, qui est décédé récemment. Ouais, ouais. Bah c'est le souvenir que j'ai.
Ça me parle pas.
Non.
Non, je suis désolée.
Moi, ça me parle de nom, mais ça date un peu.
Les 11 commandements.
Oui, ouais. Le film.
Avec Michael Youn, ouais.
La comédie musicale.
Les 10 commandements.
Je l'ai pas vu, mais je suis danseur personnellement. C'est au cinéma? Où est-ce qu'on peut aller le voir?
Je suis pas fan de comédie musicale, plutôt l'opéra.
Très bien, merci. Ça date, c'est vrai, cette première version des 10 commandements sous forme de comédie musicale, Albert ?
Oui, ça date. La première représentation a eu lieu en septembre 2000, donc ça va faire 24 ans. En même temps, c'est resté dans l'inconscient collectif. Le fil rouge jusqu'à aujourd'hui, c'est cette chanson,
bien sûr.
L'envie d'aimer, qui pour
moi... On l'écoutera tout à l'heure, ouais, évidemment, dans la nouvelle
après,
version.
Qui est pour moi le deuxième hymne à l'amour, après celui d'Edith Piaf. Je pense que ce spectacle est toujours, évidemment, dans la tête des presque 2 millions de gens qui l'ont vu à l'époque en France, c'est beaucoup. Et voilà, on essaye de proposer une nouvelle version de ce spectacle.
Comment est née justement cette idée de remettre sur scène ce spectacle ?
Il y a bientôt 2 ans, on a rendu un hommage à Daniel Lévy au Théâtre Mogador. Beaucoup d'artistes sont venus chanter ses chansons sur scène. Et parmi eux, Pascal Obispo était là. Pascal Obispo faisait évidemment partie de l'aventure il y a 24 ans. C'est lui qui a composé toutes les chansons. C'est lui qui a écrit le livret musical sur des textes de Lionel Florence et Patrice Guirao. On a vécu une histoire assez incroyable ensemble. Au bout de 3 ans de jeu, à l'époque, Daniel ne voulait pas refaire les 10 commandements. Il a merveilleusement porté le costume de Moïse pendant 3 ans. Et à l'issue de ces 3 années fantastiques, il voulait privilégier sa carrière personnelle et ses chansons, ce qui était bien légitime.
Bien sûr.
Et moi, sans Daniel, je n'imaginais pas la possibilité de refaire ce spectacle. Donc, on en est resté là, alors que les Starmania et Notre-Dame de Paris ont multiplié les
versions,
les mises en scène, etc. Voilà. Et à l'occasion de cet hommage, il y a bientôt 2 ans à Mogador, on s'est croisé avec Pascal et on n'a pas eu besoin de se parler pour se confirmer que le moment était certainement venu de faire quelque chose. Mais
comme une évidence.
Comme une évidence, mais totalement différemment. En hommage à Daniel, évidemment décédé. Et on y est allé, mais avec fermement l'intention de faire quelque chose de totalement différent, à part les chansons.
C'est ce que j'allais dire, c'est vraiment une réadaptation totale.
Ah, mais totale. C'est une visite totalement différente du spectacle. C'est Giuliano Peparini qui est désormais aux commandes de la mise en scène et des chorégraphies. On a fait toute la création dans son académie à Rome et le résultat est assez bluffant. J'ai pas de scrupules ni de mal à le dire parce que j'ai moi-même été ultra bluffé par le résultat et qui représente une première dans le spectacle, réussir à ce point et grâce au progrès désormais maîtrisé de cette haute technologie rapportée à l'imagerie surtout, on arrive aujourd'hui à projeter dans une cage de scène une imagerie 3D relief et quand on a un metteur en scène et un chorégraphe du talent de Giuliano Peparini, cette haute technologie est tellement maîtrisée, ça donne un résultat unique, inédit et assez incroyable. La fusion parfaite entre l'imagerie 3D relief et l'action live.
Ouais, c'est ça l'élément principal de différence, avec aussi des chansons en plus,
avec,
bien sûr des artistes différents.
Avec 3 inédits, mais évidemment que les chansons sont là, ce sont les mêmes. On a revisité le son de ces chansons 25
ans après. Les arrangements un peu ?
Oui, les arrangements, il fallait rafraîchir un peu tout
bien sûr.
Mais les textes sont identiques. L'histoire, on ne va pas la toucher, c'est la Bible.
Évidemment, on en reparlera d'ailleurs.
L'histoire et ses personnages, voilà, mais on est aujourd'hui dans une version totalement différente et résolument moderne de ce spectacle.
Alors, il y a eu déjà quelques représentations. Sarah, vous l'avez vécu comment, ce début des 10 commandements, nouvelle version ?
Avec beaucoup, beaucoup de bonheur et d'excitation. Je pense que je peux parler au nom de tous les artistes qui sont sur scène. C'est quand même un honneur de pouvoir porter sur scène une nouvelle version de ces magnifiques chansons. Il y a beaucoup d'émotions. Le public est avec nous. À la fin, on le voit et on sent cette connexion. En fait, il n'y a plus de différence entre la scène et la salle. À la fin du spectacle, on est tous ensemble et on chante l'envie d'aimer.
Ouais. Alors ça, c'est peut-être d'ailleurs un des points communs avec la première version. Parce que moi, j'ai eu le privilège d'assister à la première au Palais des Sports de cette première version. Et c'était un truc assez dingue à la fin, cette émotion. J'avais les larmes aux yeux. Ça fait 20 ans, donc j'étais bien plus jeune. C'était pas tellement le type de spectacle que j'avais l'habitude de voir, mais il y avait une vraie émotion, sincère, authentique. Et puis, ce rapport avec le public, un peu comme vous l'exprimiez.
On a le même producteur. Et ça vient aussi de son intention, je pense. Je ne crois pas m'avancer en disant ça.
Albert,
c'est son idée aussi de créer cette fusion entre le public et nous.
Ouais.
Oui, ça va de soi. D'abord, on joue pour le public, on produit pour le public, on attend la sanction ultime du public.
Évidemment.
Donc, on est suspendu à ses lèvres et à son jugement. Et quand on constate une fusion avec le public, on peut considérer qu'on a réussi notre pari.
On a gagné, ouais.
Quand on a une standing ovation d'un quart d'heure à la fin du show et que les gens ne veulent pas partir et veulent continuer à chanter, c'est plutôt gratifiant et très, très plaisant. Et vous soulignez le degré d'émotion qu'on avait dans cette première version des 10 commandements. C'est vrai que c'était un spectacle qui était débordant d'émotion. émotions, ouais. On a la même.
Ouais,
et c'est assez magique. Alors, le thème y est pour quelque chose, l'interprétation y est évidemment pour quelque chose aussi. On a une troupe exceptionnelle, vraiment, de chanteurs et de chanteuses, et la mise en scène vient couronner le tout. Mais je constate, à la différence de certains de mes précédents spectacles, qu'on a une fois de plus, dans chaque salle qu'on visite, et on tourne depuis maintenant 5 semaines, un degré d'émotion qui est incroyable. Les gens pleurent, et nous avec.
Bah oui, je comprends. Alors parlons du fond, parlons de l'histoire qui sous-tend ce spectacle. Les 10 commandements, alors très rapidement, c'est bien sûr ce récit biblique de la libération des Hébreux esclaves en Égypte, et puis le périple qui suit jusqu'à la terre promise. Tout commence avec la terrible décision prise par le pharaon Séti de tuer tous les premiers-nés hébreux. Jeune mère juive désespérée, Jochébed, c'est-à-dire vous, Sarah Cooper, puisque c'est le rôle que vous jouez, n'a d'autre choix que d'abandonner son enfant pour lui éviter une mort certaine. Elle le dépose alors dans un berceau en osier au bord du Nil. Et Bithya, la sœur de Pharaon, va recueillir le bébé et l'élever comme son propre fils sans connaître sa réelle identité. Il s'appellera Moïse, et c'est l'histoire de cet homme qui deviendra donc le libérateur et à qui Dieu confiera les fameuses tables de la loi avec ses 10 paroles qui vont fonder une manière de croire. Alors je vous propose, Sarah et Albert, dans notre traditionnel, c'est le fil rouge de l'émission, le rendez-vous avec la parole, avec le texte, dans Soleil, le rendez-vous protestant, d'entendre justement ces fameux 10 commandements dans le texte biblique. Nous allons dans le livre de l'Exode au chapitre 20 et c'est le slammer Mick qui nous lit ce passage.
Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucune représentation de ce qui est dans les cieux, sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant des statues de ce genre, tu ne les adoreras pas. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. Souviens-toi du jour du sabbat pour me le réserver. Respecte ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne.
Nous parlons donc du spectacle musical Les 10 commandements dans Soleil, rendez-vous protestant sur France Culture en ce dimanche matin. Mais si on en écoutait un premier extrait, alors on va le faire de façon très originale. Sarah va chanter en direct dans le studio l'un des titres qu'elle interprète sur scène, Laisse mon peuple s'en aller. C'est donc ce moment où Jochébed, avec Moïse, se retrouve confronté au pharaon et appelle le pharaon à laisser partir ce peuple. Oui. Donc, on vous écoute, Sarah, c'est à vous.
Parce qu'il n'est pas permis de vivre en esclavage, nous passerons nos vies à contenir nos rages, à nourrir les rancœurs qui armeront nos bras et qui vaincront nos peurs au moment du combat. Laisse mon peuple s'en aller. Vivre libre.
Voilà, merci. Alors c'est juste un tout petit extrait, le premier couplet, un refrain, histoire de vous donner envie de venir.
On va pas tout révéler.
Non. Non, mais il y a vraiment l'essentiel là, et un grand merci d'avoir accepté de jouer le jeu, de chanter en direct, bah, comme ça
plaisir.
À la radio.
Avec grand plaisir.
On entendra tout à l'heure un titre, cette fois-ci enregistré, donc c'est la version de L'envie d'aimer. Sarah, dans ces 10 commandements, L'envie d'aimer, vous êtes donc la mère de Moïse, Yokebed. Peut-être quelques mots sur ce personnage ?
Oui, bah j'ai beaucoup de chance d'interpréter ce personnage parce qu'il est intense et il a une belle évolution au cours du spectacle. Donc au début, on voit donc Yokebed dans un âge qui est à peu près le mien aujourd'hui, on va dire ça. Et comme tu as très bien raconté tout à l'heure, elle est contrainte de laisser son fils entre les mains du destin pour lui laisser une chance de vivre. Mmh. Et ensuite, on la retrouve un peu tout au cours du spectacle, mais aussi au deuxième acte, dans un âge plus avancé. Et elle chante exactement cette chanson. Elle a le courage de s'opposer au pharaon qui est devenu Ramsès à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'elle retrouve son fils, des années et des années plus tard. Donc c'est un moment très chargé d'émotions. À la fois, elle a le courage de s'opposer au pharaon et à la fois, elle retrouve son enfant. Ce qui est quand même immense.
Extraordinaire.
Voilà. Donc voilà, c'est un personnage qui évolue bien et qui est très intense, chargé à la fois de mélancolie, parce qu'abandonner son enfant, c'est quand même, je pense, l'acte le plus terrible que l'on puisse avoir à faire. Et à la fois chargé d'espoir, puisqu'elle croit toujours que c'est possible, que son peuple peut être libéré.
Oui, c'est la foi qui porte tout ça.
Oui,
et
c'est un personnage qui a la foi.
Alors justement, je disais tout à l'heure que vous veniez de la scène gospel. On peut vous voir notamment sur les réseaux sociaux, Instagram notamment. Et vous chantez souvent a cappella, et moi je vous suis.
Ouais.
J'apprécie de vous voir chanter souvent des morceaux avec, donc, malgré tout, une dimension spirituelle.
Ouais.
Et puis, il y a eu Noé, Moïse. Votre rapport, justement, au gospel, à la foi, à la spiritualité ?
Alors, c'est marrant, parce que donc, je suis une personne qui a la foi dans la vie.
Ouais.
Par contre, je me distingue d'autres parce que je n'ai pas de religion. Je suis d'une origine métissée, si on peut dire. Mon père est de famille chrétienne, ma mère de famille juive. Et je n'ai pas fait de choix. Je crois juste en Dieu.
Ouais.
Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que sur mon chemin, c'est vraiment un hasard, je suis amenée à interpréter, même dans les comédies musicales,
des
personnages qui ont cette foi. J'ai joué Naama, qui était la femme de Noé.
Ça n'a pas
c'était
été
pareil.
Un choix personnel.
Bah non, c'est là où est ma place,
manifestement.
C'est là qu'on peut croire en autre chose qu'en ce qui se passe ici.
Au simple hasard, mais peut-être à une résonance.
Je ne sais pas si c'est que du hasard.
Voilà.
Ça m'appelle toujours.
Albert Cohen, quelques éléments peut-être aussi à nous donner sur ce casting, parce qu'on a Sarah Cooper avec nous. Qui d'autre sur scène ?
9 chanteurs et chanteuses assez incroyables. On peut les citer tous.
Essayant d'oublier personne.
Benjamin Bocconi dans le rôle de Moïse, évidemment. On a Lilou dans le rôle de Nefertari. David Lampel
Ramsès.
Dans le rôle de Ramsès. On a Sharon Laloum dans le rôle de Myriam.
On a Julien Arcouri dans le rôle d'Aaron. On a Tony Bredelet dans le rôle de Josué. Margarita Buisan dans le rôle de Séphora, la femme de Moïse.
Voilà.
Et on a Awasi dans le rôle de Bithya, donc qui va adopter Moïse.
C'est ça. Et de ce qu'on voit, parce que si on suit un petit peu sur les réseaux sociaux, notamment, il y a des petites vidéos qui circulent, et on a vraiment l'impression qu'il y a une très très belle ambiance là parmi cette équipe de chanteurs, chanteuses.
Ouais. Je pense qu'ils nous ont choisis pour nos voix, mais aussi pour ce qu'on dégageait, parce qu'il y a vraiment une symbiose entre nous.
Mmh.
C'est très simple, c'est très fluide. Et ça se passe vraiment bien.
Quand on fait un casting de voix, évidemment, mais on fait aussi un casting de psychologie compatible. Toute la difficulté de l'exercice consiste non pas à aligner des performances vocales ou des talents vocaux, mais bel et bien des êtres humains qui vont vivre ensemble pendant des mois, j'espère des années, et qui vont devoir cohabiter dans les transports, dans les hôtels, dans les salles. Et il faut que tout ce beau monde soit... heureux et dans le confort, et il faut qu'ils soient heureux d'être ensemble. Et quand on y arrive, parce que c'est pas toujours évident, non seulement nous le ressentons, mais le public le ressent aussi.
Ça.
Et ça crée une sorte de dynamique incroyable et à chaque fois très surprenante. Mais bon, on défend une belle cause.
Oui, on a bien sûr des chansons exceptionnelles, une histoire qui traverse les religions, les cultures. Finalement, c'est quelque chose d'universel qui est fait de foi, d'éthique, de combat, d'histoire, de famille. C'est peut-être aussi ça la particularité des 10 commandements, c'est que ça rejoint chacun, chacune, même dans son histoire personnelle finalement.
Exactement, et chacun s'identifie à cette histoire et chacun y adhère, évidemment. C'est le fondement de notre civilisation moderne, c'est l'origine des 3 religions monothéistes, ça concerne tout le monde. Et c'est pour nous un grand privilège de produire ce spectacle, de tenter d'en faire une réussite et de véhiculer ce message d'amour et de paix. En ce moment, ça fait du bien.
Merci beaucoup Albert Cohen,
merci
Sarah Cooper.
Merci.
Alors on rappelle avant de se quitter que les places sont en vente partout pour la tournée, et en particulier pour ces dates parisiennes à la scène musicale, au mois de juin. Et puis, d'autres éléments peut-être à communiquer? Vous allez sortir, j'imagine, le CD, un DVD, des produits dérivés, toutes sortes de choses?
Bah, tout ça est en route, oui.
Ouais, c'est en cours de réalisation.
Notre priorité, c'était d'abord de faire un merveilleux spectacle. Et j'en profite pour saluer le travail de toutes les équipes artistiques, techniques.
Ça fait combien de monde?
Ça fait 140 personnes qui travaillent, ouais. Et non, ce sont de lourdes et grosses productions qu'il faut porter à bout de bras. Mais quand on est passionné, on ne refuse pas l'effort.
Eh bien, grand merci d'avoir accepté de venir ce matin sur France Culture dans cette émission pour parler de ce spectacle. Et puis moi, j'ai hâte de le voir sur scène très prochainement et de vous retrouver.
Donc... Et si on peut faire un petit clin d'œil aux danseurs qui fournissent quand même un super beau travail. Voilà, on les aime très fort et que sans eux... Voilà, on a besoin d'eux tout le long de la route.
Et toute l'équipe technique.
Tout le monde, quoi. Il n'y a pas que les chanteurs. Il y a vraiment tellement de monde qui œuvre.
Eh bien, je vous propose de terminer cette interview en écoutant la troupe du spectacle dans le titre emblématique, ce deuxième hymne à l'amour, l'envie d'aimer.
C'est tellement simple, l'amour. Tellement possible, l'amour. Qui l'entend, regarde autour, à qui le veut, vraiment, c'est tellement rien d'y croire, mais tellement tout, pourtant.
Avant de nous séparer, deuxième dimanche du mois oblige, la chronique des amitiés huguenotes internationales. Bonjour Nathaniel Caron.
Bonjour Jean-Luc.
Nous ferons un grand bond dans le temps ce matin avec cette chronique écrite par Christiane Guttinger, puisque nous remontons vers le XVIIe siècle, appelé aussi le siècle d'or néerlandais, et tout cela au travers de la gravure.
Exactement Jean-Luc. Deux récentes expositions de gravure conduisent à envisager cet art sous le prisme de la politique. La première exposition à Chantilly s'intitule Par-delà Rembrandt, estampe néerlandaise du siècle d'or. La seconde, à découvrir au Musée international de la Réforme à Genève, se nomme Rembrandt et la Bible, gravure divine. Rembrandt tire une grande partie de son inspiration de la Bible et renouvelle ainsi les codes fixés par les artistes catholiques. Il traite d'épisodes inédits, accompagnés du texte biblique correspondant, alliant ainsi images et lectures. Sa vision est très humaniste, réaliste, mais aussi désacralisée. Elle évoque des scènes de la vie quotidienne, loin de l'idéalisme suave des Italiens. Une lumière émane du Christ et des nativités, mais les protagonistes ne sont pas couronnés d'une auréole.
La Bible, donc, dans l'œuvre de Rembrandt, mais aussi avec lui et d'autres, une dimension politique qui apparaît?
Eh bien, c'est précisément là où je voulais en venir. L'exposition d'estampes néerlandaises au musée Condé de Chantilly insistait sur l'expression de la volonté politique de la jeune nation des Pays-Bas. Cette nation, à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, affirme son existence dans les milieux de l'art, des lettres et des sciences. D'ailleurs, dès le XVIIe siècle, les Néerlandais ont conscience de vivre un développement économique qui les hisse brièvement au rang de première puissance commerciale du monde. C'est leur âge d'or. À l'issue de guerre, la monarchie espagnole reconnaît en 1648 l'indépendance des Provinces-Unies qui s'affirment alors comme une nation en majorité protestante, s'opposant donc aux Flandres catholiques. Le dessinateur et graveur néerlandais Hendrik Golzius met en scène de jeunes soldats dans des positions avantageuses. Bernard Picard, quant à lui, gravera et diffusera une suite de soldats et chevaux. Le graveur et peintre dit Zeeman, pour sa part, exalte la suprématie maritime, le développement des compagnies néerlandaises des Indes orientales et occidentales, qui implantent des comptoirs partout dans le monde.
Et c'est l'art du portrait qui est aussi en vogue à cette époque.
Oui, effectivement. Le portrait, largement diffusé par la gravure, témoigne de l'émergence d'une classe ascendante d'intellectuels et de marchands. Ces derniers se font portraiturer par de grands artistes comme Golzius, Rembrandt et Van Dyck. C'est aussi l'occasion de mettre en valeur certains métiers. Les artistes font ainsi la promotion d'un pays où il fait bon vivre, idéalisant la figure d'élégants bergers et bergères enrubannés, flirtant en gardant vaches et moutons libres d'entraves. Fêtes de village, scènes champêtres et courtoises concourent à donner l'image d'une joie de vivre populaire. Les réseaux de diffusion des estampes utilisent les circuits du livre, mais aussi ceux des marchands graveurs d'estampes, des galeries et des ateliers d'artistes qui s'étendent à la Suisse, la Hollande et l'Allemagne. Leur diffusion est facilitée par le coût modéré des tirages multiples liés aux deux techniques du burin et de l'eau-forte. Le goût de l'estampe se répand dans un large public, ne se limitant plus aux élites et pénètre la moyenne bourgeoisie. Alors que l'image pieuse, sacrée et bénie garnit les demeures catholiques, les protestants apprécièrent particulièrement ces gravures hollandaises, vecteurs d'une nouvelle imagerie. Une imagerie qui ouvre la voie à une production française désacralisée, proposée par des artistes réformés comme Abraham Bosse ou Tortorel et Périssin. Henri IV sut d'ailleurs bien utiliser cette force de l'image pour sa propagande et conquérir l'opinion.
Merci beaucoup Nathaniel Caron pour cette page d'histoire. Merci aux Amitiés Huguenotes Internationales que vous retrouvez sur internet à l'adresse www.huguenot.fr. C'était Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Émilie Vallat et avec Éric Boisset à la prise de son. Cette émission est à réécouter cette semaine sur le site protestantpluriel.org, à tout moment sur le site de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Ce matin, de 10h à 10h30 sur France 2 dans Présence protestante, c'est le magazine Écriture de Marion Muller-Collard. Mais sur France Culture, à suivre les informations puis talmudiques présentées par Marc-Alain Wachnin. Très bon dimanche à chacune et chacun.